9 novembre 1989. Le mur de Berlin tombe.
Les peuples bougent, et quand ils bougent, ils décident. Eh bien, le 9 novembre, à Berlin, l'histoire en marche offrait au monde le spectacle improbable, la veille encore, d'une brèche dans le mur.
Also ich bin aufgewachsen im Westen des Ostens.
J'ai grandi à l'ouest de l'Est, juste à côté du rideau de fer à la frontière. J'ai grandi en RDA, donc, directement au niveau du rideau de fer. Et il est peut-être intéressant de raconter que, pour moi, le monde s'arrêtait réellement à cette frontière. Le rideau de fer avait aussi imprégné ma conscience d'enfant, et je n'arrivais absolument pas à me représenter ce qu'il y avait de l'autre côté. Je ne pouvais pas imaginer que le paysage dans lequel je vivais pouvait se prolonger derrière la frontière. Ça a aussi fait naître des conceptions curieuses. Je me rappelle la première fois où je suis allé à l'ouest, une semaine après la chute du mur. J'avais 26 ans. J'ai vu des chevaux dans un pré et j'ai été surpris qu'ils aient exactement la même apparence que ceux de l'Est. Voilà à quel point ça s'était imprimé de manière absurde dans ma conscience. Il y avait une véritable séparation.
Also so absurd hatte sich das also sich das niedergeschlagen in meinem Bewusstsein. Also es war wirklich eine richtige Spaltung.
Qui connaît les élections européennes? Souvent synonyme d'abstention record, de campagne électorale bâclée et de désintérêt médiatique, les élections européennes sont aujourd'hui l'unique et la plus grande élection supranationale au suffrage universel direct jamais organisée au monde. Je vous emmène dans les mémoires de ces élections européennes. 9 épisodes, pour 9 élections, à travers les témoignages de celles et ceux qui ont participé à modeler ce Parlement européen depuis 1979 jusqu'à nos jours. Je m'appelle Laetitia Chabanne et vous écoutez Europe et Sentiments. Élections européennes, une histoire sous les radars. Épisode 4, 1994. Les Allemands de l'Est, des Européens par hasard. Le contexte, 4e élection, 12 pays, taux de participation, 56,67%. L'histoire commence le 12 juin 1994. Nous sommes à Eisenach, une petite ville située dans l'ouest du Land de Thuringe, au centre de l'Allemagne, dans la vallée de l'Orsel. Et ce dimanche, les habitants citoyens de l'ancienne RDA s'apprêtent à participer pour la première fois aux élections européennes.
Aujourd'hui, ce sont les élections européennes et nous votons pour la première fois. Je pense que nous devons exercer notre devoir de citoyen.
Les Allemands de l'Est sont conscients qu'ils sont devenus membres de l'Union européenne un petit peu par hasard, à la faveur de la chute du mur. Et c'est pourquoi de nombreux d'entre eux souhaitent que maintenant l'Union s'élargisse aux autres pays d'Europe de l'Est.
Ce ne sont pas les premiers à rejoindre l'Europe en cours de route. La Grèce, l'Espagne et le Portugal, 3 anciennes dictatures européennes, y adhèrent en 1981 pour la Grèce et en 1986 pour l'Espagne et pour le Portugal. Pas de référendum, mais une demande d'adhésion à la communauté européenne portée par des élus du peuple. Ce 12 juin 1994, ce sont donc les Allemands de l'Est qui rejoignent l'Union européenne. Sauf que les Allemands de l'Est n'ont jamais demandé à adhérer à l'Union européenne, que ce soit par référendum ou par leurs représentants élus.
Ce jour-là, la démocratie et la liberté, inséparables...
Ils y sont entrés, de fait, suite au processus de réunification des deux Allemagnes en octobre 1990.
Le peuple avait bougé. Le peuple avait parlé. Et sa voix passait les frontières.
On peut résumer cet événement en deux mots, miracle et folie.
Ralf Hubeck est un jeune pasteur protestant d'Eisenach, alors âgé de 26 ans, très actif dans les mouvements civiques de l'Allemagne de l'Est.
On ne s'attendait pas à ce que le mur tombe, ça a été dur pour Stodal, mais pour moi c'était bien plus qu'obtenir simplement la liberté de circulation. Comme je travaillais à la frontière, la chute du mur a signifié bien plus, parce qu'avec mon travail, j'avais conscience. J'étais sur place, dans une région frontalière, directement au niveau du mur. Et on sentait aussi que les gens souffraient de ne pas avoir pu voir leur famille qui vivait dans les villages voisins depuis 30 ans. Pendant 30 ans, les gens de l'Ouest n'ont pas pu se rendre dans la ferme de leur propre famille. En tant que pasteur, j'ai été témoin à des fêtes d'anniversaire. Le chef de famille se lève, et faut pas oublier qu'on était en dictature. Il fait teinter sa tasse de café avec un couvert, il y avait un grand silence, et il dit qu'il voulait rappeler que ça fait 28 ans, par exemple, que du côté de sa femme, les gens n'ont pas pu voir leur famille.
Bei Geburtstagsfeiern der Hausherr aufstand und man muss mitdenken, das war in Zeiten einer Diktatur, der Hausherr aufstand, dann an die Kaffeetasse klopfte und es war ganz still und dann sagte er möchte daran erinnern, dass seit 28 Jahren beispielsweise die Verwandten seiner Frau.
Enfin, l'autre exemple qui me vient, c'est la colline à côté du village, la colline du coin. Les gens exprimaient très souvent le fait que ça faisait 20, 25, 30 ans qu'ils n'y étaient pas montés. Beaucoup de gens m'ont dit, ah, je voudrais aller en haut de cette colline une dernière fois et après, je pourrais mourir. Quand le mur est tombé, contrairement à beaucoup d'autres Allemands de l'Est, je ne suis pas allé à l'Ouest. Mais j'ai sonné les cloches dans mes paroisses. Parce que pour les paroisses de cette région où la frontière avait séparé les familles et les villages, c'était ça la véritable libération. C'est ce qu'il y avait de grand dans cet événement. C'est pour ça que j'ai dit que c'était le miracle et la folie. Parce qu'on ne s'y attendait pas.
Weil für die Gemeinden in dem Grenzgebiet, in dem Grenzraum, wo die Grenze durch die Familien gegangen ist, durch die Dörfer gegangen ist, das war das eigentliche Befreiungserlebnis. Das ist das Große an diesem Ereignis. Deswegen sage ich, es ist Wunder und Wahnsinn, weil wir haben nicht damit gerechnet.
La chute du mur est à la fois un miracle. Personne n'avait prévu une ouverture aussi rapide, portée par un mouvement pacifiste, sans heurts et sans violence. Et une folie. Car dans l'enthousiasme général, les Allemands de l'Est en oublient presque leur pays. Et l'Ouest devient synonyme de meilleur, surtout du meilleur de la consommation. Le D de démocratie est remplacé par le D de Deutschmark.
Il faut faire une distinction entre la phase de la révolution pacifique à la fin de l'été et au début de l'automne 89 et la phase après la chute du mur. Avant la chute du mur, nous étions dans le monde de l'intérieur. Nous ne voulions plus que d'autres décident à notre place, mais décider nous-mêmes. Après la chute du mur, notre désir s'est tourné bien plus vers l'Ouest. Et nous nous sommes calqués beaucoup plus sur l'Ouest. C'était pour nous un monde meilleur. Ouest est devenu un qualificatif à part entière. On disait une voiture de l'Ouest, un jean de l'Ouest, du dentifrice de l'Ouest, la télé de l'Ouest. L'orientation vers l'Ouest après la chute du mur a aussi contribué à l'affaiblissement de la puissance révolutionnaire. Pour utiliser une image, la puissance révolutionnaire s'est perdue dans les rayons des supermarchés de l'Ouest.
Also die revolutionäre Kraft, um es auf in einem Bild zu sagen, ist in den Supermarktregalen des Westens hängen geblieben.
Ce mouvement issu de la société civile, pacifiste et spontané, est très vite rattrapé par la classe politique et transformé en opportunité. Seulement 19 jours après la chute du mur, Helmut Kohl, alors chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, présente un premier plan de réunification. Unique clé du bonheur allemand, selon lui. Et là, tout s'accélère. La machine s'emballe. En moins de 11 mois, l'Allemagne est réunifiée le 3 octobre 1990.
En 1990,
il y avait encore beaucoup de renouveau.
Pourtant, 1990 est peut-être l'année la plus riche de l'histoire politique de la RDA.
Also 1990 haben wir die beste DDR erlebt, die es je gegeben hat auf dieser Erde. Es war das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und es gab auch demokratische Aufbrüche, es gab Ideen, wie man das Land gestalten soll, aber das ist dann alles eingeholt worden.
On a vécu la meilleure RDA qui ait jamais existé. C'était le pays de tous les possibles. Il y avait aussi un renouvellement démocratique. Il y avait des idées sur la manière dont on devait organiser le pays, mais tout a été rattrapé et écrasé par l'entrée rapide dans la RFA, par la réunification allemande. La grande difficulté, ou l'erreur capitale qui a été commise à l'époque, c'est que durant le processus de réunification allemande, la promesse d'élaborer une constitution pour toute l'Allemagne à la réunification du pays n'a pas été tenue. Cela avait été prévu ainsi, et la promesse a été rompue. On s'est mis d'accord sur la tenue d'une commission constitutionnelle commune. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais la question est bonne. Pourquoi il n'y a pas... qui, finalement, a décidé que ça ne devait pas se faire? Je ne sais pas du tout, mais c'est extrêmement intéressant. Il faudrait vérifier. Je ne connais pas exactement les étapes qui, pour ainsi dire, ont fait que ça a été abandonné. Car les pères et les mères de la loi fondamentale avait bel et bien prévu l'élaboration d'une constitution pour toute l'Allemagne, ainsi qu'un référendum en cas de réunification.
Für den Fall der deutschen Einheit muss es eine gesamtdeutsche Verfassung geben und auch einen Volksentscheid.
Vous avez entendu le terme de loi fondamentale. Ce n'est autre que la constitution de la République fédérale d'Allemagne, c'est-à-dire la constitution écrite à la sortie de la guerre et ratifiée le 8 mai 1949 par les Länder de la RFA, l'Allemagne de l'Ouest. Au lieu et place de la rédaction d'une constitution commune initialement pensée, la loi fondamentale va s'imposer aux 5 nouveaux Länder créés à la suite de la dissolution de la RDA, l'Allemagne de l'Est.
Ce qui est intéressant cependant, c'est que s'il y avait eu une nouvelle constitution, elle aurait été la pièce maîtresse de l'unité allemande. En effet, nous aurions ainsi pu, en Allemagne de l'Est, nous pencher sur toutes les questions constitutionnelles. Ça comprend le système démocratique, les idées issues de la révolution pacifique, comme la démocratie directe avec, par exemple, la participation citoyenne, mais aussi notre position vis-à-vis de l'Europe. Le travail constitutionnel aurait été un moment idéal pour que nous, l'Est et l'Ouest, nous retrouvions sur un pied d'égalité pour prendre conscience l'un de l'autre, déjà, et en même temps pour réfléchir à notre positionnement, à ce que nous voulons être en tant que pays et notre position à l'égard de l'Europe et en Europe. L'élaboration d'une constitution pour toute l'Allemagne, ça aurait été la grande occasion de faire ça. Comme j'ai dit, On peut dire ça pour la première phase, jusqu'à ce que le mur tombe et que l'on se tourne vers l'ouest. Après, on a plutôt vécu cette frustration dont je parlais à l'instant, cette grande frustration, parce qu'on avait l'impression que la révolution mangeait ses enfants. La société civile et le mouvement ne jouaient plus un rôle important.
Pourtant, dès la chute du mur, en novembre 1989, se constitue ce qu'on appelle la table ronde, qui s'inspire de la table ronde organisée en avril de la même année par Solidarnosc, en Pologne. Cette table ronde réunit autour d'une table, donc, comme une sorte de forum, les représentants d'organisations gouvernementales est-allemandes, comme des syndicats ou l'Association indépendante des femmes, et les représentants des nouveaux mouvements citoyens, comme Démocratie Maintenant, l'Éveil démocratique et le Nouveau Forum, pour discuter et faire avancer les réformes en République démocratique allemande, Allemagne de l'Est, et pour conseiller l'exécutif jusqu'à la tenue d'élections nationales. 33 membres ont un droit de vote, et 6 autres membres, issus de la société civile, représentent les femmes, le clergé, les consommateurs et les écologistes, et ils sont présents en tant qu'observateurs.
Ils étaient près de 10 000 à partir du quartier alternatif de Kreuzberg pour protester contre la réunification allemande.
À regarder l'histoire à travers les yeux des perdants, ou du moins des seconds.
Ta gueule, l'Allemagne, ça suffit, était un de leurs slogans favoris, car selon eux, la grande Allemagne de Helmut Kohl représente le pire.
On se dit que la belle histoire de la réunification allemande ressemble un peu à une annexion, sans véritable discussion.
Là aussi, que l'unification allait faire des anciens citoyens de RDA des Allemands de deuxième classe.
Es hat mal jemand gesagt, die Ideen und auch die demokratischen, also Gestaltungsideen, wurden zum demokratischen Ballast auf dem Weg zur deutschen Einheit.
Also der Westen selber. Quelqu'un a dit un jour que les idées concernant l'organisation démocratique étaient ensuite devenues un boulet démocratique dans le processus de réunification allemande. L'Ouest lui-même a considéré ce renouveau comme un poids et ne l'a pas encouragé. L'Ouest ne regardait que de son côté et s'est vite recentré sur lui-même après la courte période de déstabilisation provoquée par la chute du mur. Ça a été un ascenseur émotionnel. D'un côté, nous avions encore l'espoir de pouvoir nous organiser, de l'autre, nous avons été très déçus. Quand la réunification est arrivée, j'ai peint une bannière et je l'ai accrochée sur un pont d'autoroute, juste après la frontière. J'avais écrit « Bienvenue dans la zone d'occupation de la RFA ». C'est difficile à traduire. Hein, mais... Après la Seconde Guerre mondiale, on a eu la zone d'occupation soviétique, la zone française, la zone britannique et la zone américaine. J'ai joué là-dessus et j'ai affiché ce message. C'était très frustrant parce que ce pays de tous les possibles est devenu une simple copie de la République fédérale d'Allemagne.
Also es war ein großer Frust, weil aus diesem Land der unbegrenzten Möglichkeiten wurde einfach nur eine Kopie.
Pour être honnête, il faut tout de même dire que c'était une colonisation souhaitée. Certains comme moi l'ont vécu comme une occupation, mais beaucoup d'autres voulaient ça. Parce qu'ils voulaient justement faire partie de l'Ouest, pas moi. Moi, j'aurais aimé que nous suivions notre propre chemin. J'aurais aimé qu'on ait la possibilité de développer les choses nous-mêmes, de prendre du temps pour ça. Simplement pour réfléchir à ce que nous voulions comme constitution et à comment nous voulions vivre ensemble de manière juste, écologique, ouverte sur le monde, des choses comme ça.
Also uns auch dafür Zeit zu nehmen und einfach zu überlegen, wie wollen wir verfasst sein, wie wollen wir miteinander leben, und zwar gerecht, ökologisch, weltoffen, ja, sowas.
Cette intégration de la RDA dans l'Europe raconte, je trouve, deux éléments importants de l'histoire de la construction européenne. D'abord, elle dit quelque chose de notre rapport à l'Est, perçu comme une zone de deuxième catégorie, à qui on offre le cadeau de l'Europe. on pourrait presque parler d'une démarche néocoloniale ici. Un pays riche, l'Allemagne de l'Ouest, a eu la gentillesse de prendre un pays au bord de la faillite, l'Allemagne de l'Est, sous son aile. Et donc, pas besoin de processus d'adhésion, pas besoin de demander ni au peuple, ni à ses élus s'ils sont d'accord, puisque c'est un cadeau. Ensuite, cette intégration raconte notre appréciation du processus lui-même pour faire partie de l'Union européenne. La réunification allemande et sa charge symbolique dans l'histoire européenne a pris l'ascendant sur le processus démocratique en cours en Allemagne de l'Est. Attention, je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire adhérer l'ancienne RDA à l'Europe, évidemment. Je souligne juste que la dimension symbolique et politique dans la construction européenne est indispensable à avoir en tête pour bien la comprendre, et que cette charge symbolique a parfois neutralisé la mobilisation citoyenne au profit d'une classe politique.
Autant il était possible de prévoir, et j'avais pris quelques dispositions pour cela, l'évolution de certains pays, je n'aurais jamais prévu ce soulèvement populaire, pacifique en plus. Et je crois que c'était extraordinaire, c'est comme en 1848 ou en 1789, le peuple qui fait l'histoire et les hommes politiques comme moi qui courront après.
Jacques Delors, sincère.
Jetzt ist wieder wichtig zu unterscheiden bis zum Mauerfall und für die Zeit nach dem Mauerfall.
Là, il est à nouveau important de faire la distinction entre avant et après la chute du mur. Jusqu'à la chute du mur, c'est bien la société civile qui a porté la révolution. Pour moi, cette révolution n'aurait pas été possible sans la société civile. Et après la chute du mur, la sphère politique a essayé de reprendre les rênes du pouvoir. Je voudrais donner un exemple. Les premières élections libres en RDA ont eu lieu en mai 1990. Et la table ronde centrale de la RDA avait pris la décision de ne pas autoriser les personnalités politiques de l'Ouest à participer à la campagne. Les partis de l'Ouest l'ont extrêmement mal pris et disaient « ils veulent notre argent, mais ils ne veulent pas de nous ». Mais la décision de la table ronde était intelligente. La table ronde réunissait tous les mouvements et l'idée était de protéger la société civile et de sauvegarder la société civile de l'Est. Mais ça a été un échec.
Revenons aux élections de ce dimanche 12 juin 1994. À l'issue de la réunification, les Allemands de l'Est ont rejoint l'Union européenne de fait et peuvent donc voter pour la première fois aux élections européennes. Quelle est la perception de cette institution supranationale chez les Allemands de l'Est ?
L'Europäische Union oder Europa als Gebilde hat
pour nous, pour moi, dans les années 90, l'Union européenne, ou l'Europe en tant que construction, n'avait pas un rôle très important. Dans les années 90, notre vie à l'Est a complètement changé. C'est toute notre vie qui a été bouleversée en Allemagne de l'Est. En Allemagne de l'Ouest, tout est resté comme avant. Nous étions confrontés à un pays. Enfin, nous sommes réveillés dans un pays que nous ne connaissions pas, que nous ne connaissions que par la télévision et par ouï-dire. Nous avons ensuite été confrontés à des peurs existentielles qui nous étaient totalement inconnues. En RDA, nous n'avions ni agence pour l'emploi, ni administration fiscale. Nous étions extraordinairement occupés à faire face à ce processus de transformation. L'Europe en tant que construction, l'Union européenne était là, au loin. Mais n'était pas dans notre champ de conscience direct.
L'Europäische Union war da in der Ferne. Das war nicht direkt in unserem Bewusstsein.
Le taux de participation est au rendez-vous, 63%. Et si la communauté européenne semble lointaine, le droit de vote tout récemment acquis, lui, est très concret.
Also, Ich habe meine erste Wahl erlebt, da war ich 28 Jahre alt. Meine erste freie Wahl.
J'ai vécu mes premières élections à l'âge de 28 ans. Lors de mes premières élections libres, j'avais 28 ans et je peux dire que chaque élection est un moment agréable. Et je suis certain que l'élection du Parlement européen en 1994 a été un moment agréable pour moi. En revanche, je ne sais plus comment s'est passée la campagne. On vivait l'Europe par le biais de la liberté de circulation, mais l'Europe en tant que communauté était difficilement tangible pour nous. Et puis à l'époque, l'Europe était aussi désavouée par l'Ouest. Dans des débats politiques, on disait « Opa nach Europa ». Les politiciens qui n'avaient plus de perspective en Allemagne étaient envoyés à l'UE. On voyait l'Europe comme un débarras.
Hieß das Opa nach Europa, also die Politiker, die in Deutschland nichts mehr werden konnten, wurden nach Europa abgeschoben und Europa galt so als Abstellfläche, ja.
Alors fallait-il demander aux citoyens et citoyennes de l'Allemagne de l'Est leur sentiment sur une adhésion de leur pays à l'Union européenne?
Il n'empêche que dans 5 ans, pour les prochaines élections européennes, les nouveaux Européens seront plus vraisemblablement les Autrichiens, les Norvégiens, les Suédois ou les Finlandais.
Il est intéressant de noter qu'en 1994, en parallèle de ces élections, se déroulent les référendums d'adhésion à l'entrée dans l'Union européenne de 4 pays candidats: la Finlande, l'Autriche, la Suède et la Norvège. Sur ces 4 pays, 3 votent dans une large majorité oui à l'adhésion. Seule la Norvège voit le non l'emporter d'une courte majorité. Fait sans précédent, il est donc possible de dire non à l'Union européenne. Et se questionner sur ce choix singulier de la Norvège porte un double intérêt. D'abord, il permet d'aborder les problèmes liés au développement de la construction européenne. Et ensuite, de mieux percevoir les interrogations et les doutes des populations européennes face à celle-ci. Car les arguments des Norvégiens en faveur du non sont loin d'être uniquement réactionnaires ou conservateurs.
Votre proposition montre, prouve qu'il y a bien...
Alors encore une fois, fallait-il demander au peuple est-allemand son avis pour adhérer à l'Union européenne? Ce processus est-il révélateur d'un déficit de démocratie?
Si vous aviez fait un référendum en France, est-ce que vous voulez vous réconcilier avec les Allemands? Vous aviez 70% des Français qui auraient dit non. On l'a fait contre l'état d'esprit et ceux qui ont fait cette réconciliation franco-allemande avaient raison contre les peuples. Il y a des moments où il faut prendre ses responsabilités. Si le peuple veut la peine de mort, je suis contre le peuple parce que la peine de mort, c'est indigne de l'humanité. Il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison. Quand un peuple vote pour l'extrême droite, quand un peuple vote pour le nazisme, il n'a pas raison, même si c'est le peuple.
Ce que Cohn-Bendit dit reflète un raisonnement qui va vraiment du haut vers le bas.
Le projet de communauté européenne a été pensé et initié par Jean Monnet et Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères. La CECA, la Communauté européenne de l'acier et du charbon, ne vient pas d'un processus de démocratie directe d'adhésion par le peuple. Ce sont des décisions politiques portées par des gouvernements. En aurait-il été de même pour l'Allemagne de l'Est?
Mais si on veut prendre de la hauteur sur la question, si on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils répondraient, il faut aussi s'interroger sur qui la pose, sur ce que l'on demande et sur comment on le demande. Je pense que l'opinion de Cohn-Bendit ne peut porter que sur l'Allemagne de l'Ouest. Si on nous avait posé la question à nous, les Allemands de l'Est, nous aurions dit oui à n'importe quelle coopération avec la France ou avec les Allemands de l'Ouest. Mais ça, ce n'est que de la théorie, parce qu'en dictature, organiser ce genre de référendum est absurde et donne des résultats faussés. Généralement, la dictature en ressort confortée. Mais je voudrais en venir à autre chose. Cohn-Bendit dit si on leur avait demandé. Comme si on posait la question d'en haut, du jour au lendemain. Ils auraient probablement dit non. On pourrait aussi dire la chose suivante. Si on avait réuni tous les Allemands et les Français dans les cimetières militaires de Verdun, et qu'on leur avait demandé à ce moment-là s'ils voulaient la communauté européenne, alors ils auraient probablement dit oui. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend toujours de la manière dont on organise le référendum, des débats qui le précèdent et du climat dans lequel on l'organise. Chaque référendum permet de confronter les gens à une question. En ce sens, tout référendum est une invitation à se pencher sur quelque chose, à s'en rapprocher. Chaque référendum a aussi une fonction intégrative. C'est pour ça que ça aurait évidemment été très positif d'en avoir un.
On reproche souvent à l'Union européenne d'être peu démocratique, pas assez proche du peuple et de ses aspirations, peu transparente. Et c'est certain que l'exemple de l'ancienne République démocratique d'Allemagne vient plutôt conforter cette perception. On pourrait aussi faire le rapprochement avec le référendum sur la Constitution européenne en 2005 en France et aux Pays-Bas, où les peuples ont voté non. Ces référendums sont assez symptomatiques de ce que soulève Ralf Hubeck. Il ne s'agit pas simplement du choix de la question, mais du comment et du moment où la poser. Et l'impact de ces référendums à moyen terme sur la perception du politique est grand.
La réponse qui est sous-entendue et la voix qui est très forte en Allemagne de l'Est, c'est « ceux d'en haut font ce qu'ils veulent et nous ne pouvons de toute manière rien changer ». Et en effet, dans l'Est de l'Allemagne, nous avons bien obtenu la démocratie directe au niveau communal et national, mais qui n'est pas vraiment utilisable, et nous n'avons pas de pratique vivante. L'expérience d'auto-efficacité, l'expérience d'avoir du poids avec sa voix, de pouvoir intervenir pour changer les choses, n'est pas très forte. L'autre chose, c'est que les Allemands de l'Est ont vécu une perte de contrôle extrême dans les années 90. La peur que cette perte de contrôle se reproduise est très grande. Et c'est sur cette corde que joue l'extrême droite en Allemagne de l'Est, en promettant des solutions faciles. Ces solutions ne reposent sur rien, mais les gens aiment entendre ça et choisissent la voie de la facilité.
Lorsque je demande à Ralf Hubeck s'il se sent européen, il marque une pause et me répond.
Je me sens tellement européen que j'ai honte de l'Europe.
Et cette phrase résonne en moi. L'Union européenne véhicule des valeurs incroyablement fortes de paix, de liberté, de respect de la diversité et de richesse culturelle, de dignité des droits humains. La vision qu'elle porte est puissante, mais parfois, elle faillit. Ralf Hubeck a cofondé, il y a 35 ans, l'organisation Mir Demokratie, plus de démocratie, avec un objectif, l'introduction de la démocratie directe à tous les niveaux politiques et en particulier au niveau fédéral allemand. Bilan, le référendum au niveau national n'existe toujours pas en Allemagne. Ce qui n'est plus le cas en Europe depuis l'introduction de l'Initiative citoyenne européenne, ICE, créée en 2011 et qui permet à 1 million de citoyens d'appeler la Commission européenne à légiférer sur un sujet donné.
Dans les années 90, je viens du mouvement libre et indépendant pour l'environnement, du mouvement subversif pour l'environnement de la RDA, et j'ai rallié une grande association environnementale allemande au début des années 90, dont j'ai contribué à la fondation à l'Est. Nous avons lutté pendant 10 ans contre les destructions environnementales et nous avons perdu tous nos combats dans les années 90. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le mouvement démocratique. J'avais l'impression qu'il était temps de remettre en question de manière critique les structures décisionnelles et de miser sur le développement de la démocratie. La boucle était bouclée avec la Révolution pacifique. J'ai repris le fil de la Révolution pacifique de l'automne 89. C'est ce qui m'a poussé à faire partie de Mehr Demokratie. Il y avait encore la question de ce qu'on pourrait faire pour rendre l'Europe plus démocratique. C'est la dernière question. Nous essayons de lancer une initiative citoyenne européenne pour entamer une discussion sur les fondements de l'Union européenne et leur développement, pour que les citoyens et citoyennes aient la possibilité d'être moteurs sur ce sujet. L'initiative citoyenne européenne a été inventée pour que se constitue une sphère publique européenne. Autrement dit, pour disposer d'un instrument qui nous force à nous penser et à créer des réseaux au niveau européen. C'est la raison pour laquelle l'initiative citoyenne européenne ne peut être activée que si elle rassemble 1 million de signatures issues d'au moins 7 pays. Et cette contrainte est bonne, car elle permet l'émergence d'une sphère publique européenne qui n'existerait pas autrement.
Ist ja eine europäische Bürgerinitiative nur erfolgreich, wenn 1 Million Unterschriften zusammenkommen aus 7 Ländern. Und dieser Zwang ist gut, weil das sorgt dafür, dass sich eine europäische Öffentlichkeit bildet, die es sonst ja nicht gibt.
L'histoire de l'ancienne RDA, c'est finalement l'histoire de l'Union européenne. Le reproche qui revient toujours. La construction européenne a été imaginée par des élites et a grandi à l'écart des peuples. Jean Monnet n'a d'ailleurs jamais été élu. Néanmoins, on ne pourra pas enlever à Jean Monnet que sa méthode a eu le mérite de donner des résultats et d'amener petit à petit vers une Europe politique, impensable à la sortie de la guerre. Ce que l'élection de ce 12 juin 1994 nous raconte se joue, il me semble, sur un autre niveau. Non pas celui de l'adhésion de l'Allemagne de l'Est par référendum ou non, mais plutôt sur l'opportunité manquée de construire une citoyenneté européenne. Si le peuple n'a pas toujours raison, il n'en reste pas moins que la construction européenne aujourd'hui ne peut se faire sans les peuples. Et le travail de préparation, de discussion et d'expression est, il me semble, indispensable pour construire un sentiment d'appartenance. Chaque processus d'élargissement porte en lui-même une charge symbolique forte, qui n'est pas à sous-estimer, et peut devenir un véritable levier pour incarner notre identité européenne et la promouvoir. Notre regard sur l'Est ne doit pas être celui d'un pays colonisateur. Mais nous en parlerons dans un prochain épisode. Pour Jean Monnet, les peuples avaient besoin de goûter l'Europe, de la vivre, pour pouvoir ensuite donner leur opinion sur sa construction. Et vivre l'Europe, c'est connaître notre histoire, comprendre notre présent et préparer notre avenir ensemble. Alors, pourquoi irez-vous voter le 9 juin 2024 ? Merci à Ralf Hubeck d'avoir accepté de raconter son histoire. Et merci à Marcus Meyer d'avoir joué les interprètes le temps de cet échange. Cet épisode a été écrit, produit et réalisé par Laetitia Chabanne. Le montage et mixage est d'Axel Legros. Le doublage de Mathieu Ranou. La musique originale de Arnaud Paskevitch. Europe et Sentiments est un podcast indépendant. Cette nouvelle saison a été rendue possible grâce au soutien du Parlement européen et de la Fondation Hippocrène. Cet épisode a été financé par le Fonds citoyen franco-allemand. Pour connaître tous les événements de cette campagne européenne, nous vous invitons à vous rendre sur le site ensemble.eu. Et pour vous tenir informé de la sortie de nos prochains épisodes ou de nos événements, rendez-vous sur le site europeetsentiments.com ou sur sa page Instagram. Thank you.